Récits d'histoire.
Les confis sont toujours au programme de notre émission ce matin à travers les récits d'histoire avec Lil Wayne, Amandine, Lily Yang et Zoé.
Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve pour une émission sur le peuple kurde et la question d'un État kurde. Déjà, le peuple kurde est le plus grand peuple sans pays. Ils sont environ 48,45 millions de personnes à travers le monde et sont pour la majorité musulmans sunnites. Ce peuple possède sa propre culture avec ses langues, ses fêtes, sa cuisine, ses chants et instruments ou même une histoire très très riche. Donc pourquoi pas la création d'un État kurde, me diriez-vous ? Eh bien, c'est pourtant ce que revendiquent les Kurdes depuis des siècles, en particulier depuis la dislocation de l'Empire ottoman. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la situation géographique des Kurdes. En effet, ils se situent entre quatre pays, plus précisément au sud-est de la Turquie, au nord-est de l'Irak, au nord-ouest de l'Iran et au nord-est de la Syrie. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à retenir, mais ça a pourtant son importance. Car les Kurdes ont pourtant tenté une indépendance dans chacun de ces pays, mais ça n'a jamais vraiment été concluant.
Quel est leur statut en Turquie, où les Kurdes sont particulièrement nombreux ?
C'est effectivement en Turquie que les Kurdes sont le plus nombreux, entre 15 à 20 millions des Kurdes. Cependant, ce désir d'indépendance se heurte à la politique du pays. Dans les années 80, des guérillas se lancent entre le Parti des travailleurs du Kurdistan, dirigé par Abdullah Öcalan, considéré comme une organisation terroriste par le gouvernement et la Turquie. Puis dans les années 80, la Turquie reconnaît enfin le peuple kurde et promet des aides pour se développer. Mais le pays lance finalement une offensive, ce qui force à l'exil plusieurs milliers de Kurdes. Aujourd'hui, on observe toujours autant d'opposition, si ce n'est plus, à un tel point où tous les journalistes évoquant la volonté d'indépendance des Kurdes est considéré comme hors la loi et emprisonné.
Au contraire, en Irak, l'autonomie semble très avancée.
Oui, en 2005, la constitution irakienne reconnaît le Kurdistan comme une région autonome de l'Irak. Ils possèdent donc leur propre gouvernement ainsi qu'un parlement autonome. En 2017, la région autonome tente une indépendance par référendum, ce qui échoue. Cet échec fait monter une tension en Irak. Aujourd'hui, les Kurdes en Irak gardent toujours une certaine autonomie politique et militaire ainsi que le soutien d'une grande puissance internationale, les États-Unis.
Et en Iran, comment les Kurdes sont-ils considérés par le pouvoir ?
Eh bien là-bas, les Kurdes vivent dans une région du Kurdistan iranien au nord-ouest du pays. Ils ont aussi lutté pour plus de droits et de reconnaissance, mais en raison du régime théocratique, c'est-à-dire que le pays est gouverné par la religion, les Kurdes ont fait face à une sévère répression, notamment pour cause de leurs idées séparatistes, donc leur désir d'indépendance. À cette heure, les répressions de l'État iranien envers le peuple kurde persistent et toute création, ou même toute volonté de création d'un État kurde, sont perçues comme une menace. Plus récemment, en 2022, les Irakiens se sont soulevés pour protester contre la mort de Mahsa Jina Amini, jeune étudiante d'origine kurde, suite à son arrestation par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. On sait que le cri de volonté « Femme, vie, liberté » est né du combat des femmes kurdes.
Et en Syrie, où des combats entre soldats kurdes et armées de nouveaux pouvoirs syriens ont éclaté à Alep récemment.
En Syrie, une guerre civile éclate en 2011 dans le cadre du printemps arabe. Les forces kurdes, appelées YPG, également considérées comme une organisation terroriste, prennent alors le contrôle d'une région dans le nord de la Syrie. Cette région fédérale autoproclamée, c'est-à-dire qu'ils estiment que le pouvoir doit être partagé entre la Syrie et cette région, est appelée Rojava. Les Kurdes y ont installé un système autonome et démocratique, mais ils n'étaient pas reconnus par le gouvernement syrien de Bachar al-Assad et les forces turques qui gardent les frontières bordées par les Kurdes syriens. La volonté d'indépendance des Kurdes en Syrie laisse place à des enjeux internationaux. Certaines puissances tirent profit de la situation. Les États-Unis, par exemple, soutiennent le YPG, mais ils ne tiennent pas spécialement à voir émerger un État kurde en raison des relations stratégiques avec la Turquie, qui fait partie de l'OTAN. Quant à la Russie, elle peut exploiter les rivalités régionales afin d'affirmer son influence. Depuis le départ de Bachar el-Assad, les tensions montent entre les tribus arabes et les forces kurdes, si bien que certains soupçonnent une guerre civile imminente.
Un État kurde indépendant et regroupant la majorité des Kurdes semble encore une perspective lointaine.
Oui, la création d'un État kurde s'avère très compliquée, voire impossible pour le moment. Les quatre pays ont leur raison de refuser l'indépendance, leurs idées antiséparatistes ou leur privilégie l'unité du pays. Leurs idées divergentes, leur peur que d'autres minorités soient prises d'une envie d'indépendance, ainsi que leur convoitise pour les ressources naturelles du territoire kurde.
Merci Amandine pour ce point très clair sur la question kurde. On continue notre récit d'histoire avec Lil Wayne, qui elle aussi parle d'indépendance.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie de Récit d'histoire. Démarrons avec l'histoire du peuple écossais et sa volonté d'indépendance. Changeons de continent et suivons ce peuple qui s'est battu pour son indépendance. L'histoire d'une bataille peu connue aujourd'hui, mais qui pourtant eut un fort impact décisif sur l'avenir du trône d'Écosse et de l'Angleterre, la bataille de Culloden. Pour bien comprendre les enjeux de cette bataille, revenons en 1688 en Angleterre. À cette époque, l'Angleterre et l'Écosse sont dirigées par un roi unique, Jacques VII, Stuart d'Angleterre et d'Écosse, appelé James Stuart en anglais. Catholique, le monarque possède de nombreux ennemis à la cour de Londres, de par sa religion et sa bienveillance pour le peuple écossais. Son fils, encore très jeune, inspire de l'inquiétude au peuple britannique, de peur que cette lignée catholique ne dure davantage. Cette méfiance partagée pousse le roi Stuart à partir des terres anglaises pour la France, suite à un coup d'état de la seconde révolution anglaise. Dans le même temps, le prince Philippe d'Orange et sa femme Marie prennent le pouvoir en s'installant au palais Saint-James à Londres. Bien que la famille Stuart soit officiellement encore gouvernante. De par son exil, le roi Jacques contraint à l'abdication, créant une vague de contestation en Écosse.
Le conflit entre les deux familles royales est donc de nature religieuse.
En effet, chaque famille cherche à avoir à garder les terres d'Écosse. À cette même période, le mouvement jacobite commence à naître. Ce nom vient d'ailleurs de Jacques Stuart, notre roi en exil. Contrairement aux Anglais, les Jacobites ont pour but la réinstallation des Stuarts sur le trône. Une tâche ardue qui fera couler beaucoup de sang jacobite pendant plusieurs décennies face aux tuniques rouges. Dès 1644, les Jacobites trouvent un meneur de poids, le prince héritier Charles-Édouard Stuart, connu sous le nom Bonnie Prince Charlie. Il décide alors de mener ses troupes contre les forces anglaises, les tuniques rouges, un prince au caractère mêlant charismatique et séducteur, avec une témérité à toute épreuve.
Ça y est, la révolution est en marche.
Oui, avec de solides troupes constituées de clans anglais, Bonnie Prince Charlie récupère alors Édimbourg ainsi que le trône des Stuarts avec sa victoire à Prestonpans. Galvanisé par tant de réussites, Charles-Édouard Stuart se prend à rêver de gloire supplémentaire. Il envisage de conquérir l'Angleterre entière. Mais les forces jacobites sont divisées sur le sujet et décident de renoncer. Les jacobites prennent alors la décision de retourner en Écosse, en direction d'Inverness, sans se douter que les troupes anglaises se dirigent également, bien plus organisées et nombreuses que les jacobites. Seulement, les conditions météorologiques et la marche intense ont affaibli les Écossais de manière considérable. Le dirigeant jacobite, Charles-Édouard Stuart, obstiné, multiplie les désaccords internes avec son équipe. Il refuse d'entendre la fatigue de ses troupes et reste convaincu qu'il faut attaquer les tuniques rouges sur le plateau de Culloden.
Un mauvais calcul stratégique.
Le lieu est en effet connu pour être bourbeux et marécageux. Un lieu difficile pour avancer, ce qui pourrait bien épuiser les soldats jacobites davantage, déjà en sous-nombre et très affaiblis par le voyage à pied interminable qui les a menés jusqu'ici. Tout commence alors réellement le mardi 15 avril 1746, avertis de la présence des troupes non loin de là. Les jacobites espèrent prendre l'ennemi par surprise, en avançant silencieusement vers le plateau de Drumossie, sur l'état de Culloden. Une fois sur place, ils y attendent l'ennemi pendant des heures, sans succès. Ils ne se doutent pas que les troupes anglaises étaient déjà trop occupées à fêter les 25 ans de leur général Cumberland. En fin de matinée, les troupes écossaises râlent et s'impatientent. Il fait froid et le vent souffle fort. Charles-Édouard Stuart prend alors la décision de diriger ses troupes directement sur le camp des tuniques rouges. Il espère ainsi surprendre l'ennemi et prendre l'avantage en attaquant par surprise. Les troupes jacobites prennent alors la route pour Nairn et marchent près de 12 miles. Une véritable erreur stratégique. Pour les Écossais, c'est le coup de grâce. Déjà épuisés, transis par le froid et affamés, cette marche achève leur dernière résistance. Tant et si bien que la décision est alors prise par Murray de rebrayer le chemin jusqu'au camp de Culloden. Une fois arrivés, les Écossais s'endorment, alors paisiblement sur le champ. Mais il est déjà trop tard. Les tuniques rouges arrivent, et les jacobites se réveillent en sursaut pour se mettre en ordre de bataille sur le front, au sein des cornemuses. Nous sommes alors le mercredi 16 avril 1746, date officielle de la bataille de Culloden. Dès lors, la bataille semble désespérément inégale. Les jacobites, en nette infériorité numérique, épuisés, se retrouvent face à 6600 soldats anglais, en excellente condition physique, bien armés et entraînés. Dès lors, les premières minutes, c'est l'hécatombe. Les Écossais perdent plus de 700 de leurs hommes en moins de 10 minutes. Les baïonnettes anglaises sont sans pitié face à l'ennemi jacobite. Très vite, les Jacobites comprennent leur défaite cuisante. Ils désertent le champ de bataille, leur chef Charles-Édouard Stuart en tête, permettant aux troupes anglaises de célébrer leur victoire.
Le bilan de la bataille de Culloden est donc très lourd pour les Écossais.
Effectivement, on estime que la bataille de Culloden a détruit la quasi-totalité de l'armée jacobite. Et bilan est pour le moins sans appel. Ainsi, les historiens estiment que 1500 jacobites y ont trouvé la mort, 3500 des survivants ont été faits prisonniers, 120 ont été pendus et 1000 ont été déportés. La bataille de Culloden est considérée comme l'une des batailles les plus catastrophiques de l'histoire écossaise. Suite à cette bataille, en 1646, le pouvoir britannique a fait voter la Prohibition Act, une loi ayant pour but d'interdire toute forme de culture écossaise. Il était formellement interdit pour les Écossais de parler le gaélique, de jouer la cornemuse écossaise et de porter des kilts en tartan, qui donc étaient symbole de clan, d'être catholique ou encore de porter une épée.
Un épisode traumatisant de l'histoire écossaise. Quand les interdictions du Prohibition Act ont-elles été levées ?
On a commencé à revoir le retour des libertés opprimées vers 1782 avec la fin du Dress Act, par exemple, donc le port du kilt.